Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs noirs afro-descendants, diffusée deux mercredis par mois à 18h. L'invité du jour est juriste en fiscalité et droit des affaires. Elle nous expliquera en quoi consiste son métier, quelles sont ses principales missions et nous partagera son expérience du VIE à Hong Kong. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un VIE, écoutez attentivement, tonnerre d'applaudissements pour Heather Lopa.
Merci.
Merci, merci Heather d'être parmi nous.
Merci Estelle de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici, très ravie d'être invitée à Les Rubis Noirs.
Alors, donc, comme je le disais en intro, tu as fait un VIE à Hong Kong.
Tout à fait.
Avant de faire un VIE à Hong Kong, qu'est-ce que tu faisais avant ?
Donc, le VIE, c'est mon expérience la plus récente. Avant mon VIE, je faisais une alternance chez Natixis. Donc, j'étais en master en fiscalité et droit des affaires. J'ai fait un an d'alternance et puis... Est-ce que tu veux que je parle un petit peu de ce que j'ai fait avant ou je reste juste sur l'alternance ?
Non, juste avant.
Voilà, c'était ça. J'étais apprentie. Donc, j'avais un rythme assez soutenu de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école.
D'accord. Dans quelle école ?
J'étais à l'INSEC MSI. C'est une école de commerce à La Défense.
Ok, très bien. Pourquoi tu as choisi le domaine de la fiscalité ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine ?
Ce qui me plaît particulièrement dans la fiscalité, c'est la rigueur, c'est la précision, quelque chose que l'on ne trouve pas dans tous les domaines. Ce qui m'a emmenée à choisir le domaine du droit et de la fiscalité, c'était lors de mon séjour Erasmus. J'ai fait un échange universitaire aux Pays-Bas et c'était pendant mon cours de droit des affaires que je me suis rendu compte que je me vois continuer dans cette voie. Donc à la base, j'étais financière. J'avais fait un BBA, Bachelor of Business Administration.
Et où ?
J'étais à Paris. J'étais dans une école de commerce qui s'appelle The American Business School of Paris, qui maintenant a été renommée. Et puis, donc, avant, j'étais financière. J'ai fait des études en finance. Et puis après, je me suis rendu compte que j'ai envie de me spécialiser dans le droit des affaires.
D'accord. Et pourquoi tu es allée à American Business School ? Comment tu as connu cette école ? Parce que je ne la connais pas du tout, cette école.
J'ai un parcours, je dirais, assez atypique au début. Donc, après que j'ai obtenu mon baccalauréat, je voulais aller dans une école qui avait le système anglo-saxon. Je connaissais bien le système francophone à l'école et aussi celui qui était anglophone parce que j'ai aussi des expériences académiques aux États-Unis. Mais je voulais être dans un système anglo-saxon pour la poursuite de mes études. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi The American Business School of Paris pour mon bachelor.
On vous y apprend quoi dans cette école ? Qu'est-ce qu'on vous y apprend, les matières principales ? Vous avez des cours en anglais et en français ?
Non, c'est un cursus 100% en anglais, donc il n'y a pas de cours en français, sauf si on est étranger et qu'on veut apprendre le français, ce qui n'était pas mon cas. J'ai choisi le domaine de la finance et au début, parce que c'était un bachelor en 4 ans, donc au début on avait un tronc commun pendant 2 ans, donc on étudiait plusieurs disciplines, à savoir les ressources humaines, le marketing, la finance, la communication, le commerce international. Et c'est à la fin de mes 2 ans de bachelor, le bachelor dure 4 ans, mais c'est à la fin de ma 2e année où je me suis rendu compte que j'ai envie de me spécialiser en finance. Et à un moment donné, il faut effectivement choisir sa spécialisation. Oui. Donc les 3 principales dans cette école, c'était International Marketing, pas besoin de traduire, ça se comprend. Il y avait aussi Commerce International et Finance Internationale.
Et toi, tu as choisi ?
La finance.
La finance, ok, très bien. J'ai vu que tu as fait un CAP.
Exactement.
Pourquoi tu as réalisé un CAP ?
Très bonne question. Bah, pour du contexte, j'ai fait un CAP avant d'obtenir mon baccalauréat. Donc, comme je le mentionnais un petit peu, j'ai eu un parcours au début un peu atypique niveau académique. Ça a été compliqué au début parce que le divorce de mes parents m'a beaucoup affectée. Donc, j'ai eu beaucoup de lacunes en mathématiques. J'ai eu des lacunes aussi au collège, ce qui a fait que j'ai redoublé ma 4e. Et puis, j'étais en phase de transition. Donc, j'ai toujours eu une âme artistique qui s'est illustrée par 10 ans de peinture, qui s'est illustrée par des cours de dessin que je faisais depuis 10 ans. Je suis aussi diplômée d'une école d'art des États-Unis. Ça, c'était quand je faisais...
Parce que tu es afro-américaine.
C'est ça. Oui. Je suis binationale américaine et française avec des origines antillaises. Et puis, donc j'étais en phase de transition, comme je le disais. Donc, le CAP, pour moi, c'était un moyen de toujours rester dans le système académique, mais à la fois de réfléchir ce que j'avais envie de faire pour ne pas me retrouver dans une filière qui ne me correspondait pas. C'est pour ça que je n'ai pas choisi de faire un baccalauréat général, parce que j'avais encore des difficultés à l'école. Et après, j'ai quand même pris goût à la rigueur académique. Donc, après le CAP, j'ai effectivement fait un baccalauréat professionnel. Mmh. Et après, j'ai commencé les études supérieures avec un bachelor. Et ensuite, j'ai fait mon MSc, Master of Science en physique. Ce qu'a été droit des affaires.
Ce sont tes parents qui t'ont poussé à faire des études supérieures. Pour toi, c'est important de faire des études supérieures ou pas ? Ou t'aurais pu rester au CAP ?
J'aurais pu rester au CAP, mais je ne me voyais pas continuer dans la voie du vitrail, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'était un CAP en vitrail. Et j'aurais pu continuer, mais j'avais envie d'explorer autre chose. Et c'est un diplôme qui m'est toujours...
utile ?
Enfin, je m'en sers pas, mais à l'époque, en tout cas, c'était très enrichissant et j'en garde une excellente expérience. C'était quoi la question ?
Tu disais, est-ce que pour toi, c'est important de faire des études ?
C'est une bonne question.
Important de faire des études supérieures ou pas ?
Je dirais que oui.
Tes parents t'ont poussé à en faire ? Ou pas du tout?
Alors, dans ma famille, ils sont très axés école. Donc, autour de moi, j'ai eu beaucoup d'influence de personnes de ma famille qui ont été dans les études supérieures, dans des institutions prestigieuses. Donc, pour moi, c'était plutôt l'atteinte à l'excellence académique plutôt qu'une forme de pression. Je sais que j'aurais toujours reçu beaucoup d'amour si je me serais arrêtée au bachelor ou si je me serais arrêtée au baccalauréat. Mais vraiment, il y a beaucoup de membres de ma famille qui m'ont inspirée parce qu'ils ont réussi à obtenir des postes haut placés. Donc, pour répondre à la question, je dirais que oui.
Alors, maintenant, on va parler donc de ton stage que tu as effectué chez Crédit Agricole.
Oui.
Tu as été opérationnel risk analyst chez Crédit Agricole. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, en français, c'est d'être analyste des risques opérationnels. Et quand je suis entrée au Crédit Agricole, je ne savais pas du tout ce que c'était le risque opérationnel. Le risque opérationnel, c'est lorsqu'il y a... un risque de perte financière ou un risque réputationnel. Et ça vient parce qu'il y a eu, par exemple, des erreurs de manipulation, il y a eu des défaillances dans le système. Donc, par exemple, il y a peut-être eu une fraude quelque part à la banque, il y a eu une erreur de manipulation, une erreur humaine. Et en fait, le risque opérationnel, ça consiste à identifier des risques, les analyser, mais aussi trouver des solutions. Et ça rentre beaucoup dans un cadre de réglementation. Donc, c'était un métier très intéressant.
Quelles étaient tes responsabilités en tant que stagiaire ?
Alors, je travaillais au sein de la direction des risques groupes à la maison mère du groupe Crédit Agricole situé à Montrouge. Et mes responsabilités, c'était principalement d'analyser les risques, de mettre en place un plan d'action pour y remédier, d'identifier, d'analyser les catégories et de voir comment est-ce que... Les risques peuvent être mieux gérés en interne. Quelque chose qui me marque dans cette expérience, c'est que j'ai été force d'initiative parce que quand on est en stage, en tout cas pour ma part, c'était un moment très impressionnant parce que c'était ma première fois dans une banque et donc je voulais quand même maximiser au plus mon expérience. Et donc j'ai eu l'initiative de faire une analyse des risques précédents de 2022, comparer par exemple la date de détection du risque avec les incidents, identifier quelles catégories de risques nous sommes les plus susceptibles au Crédit Agricole. Et puis aussi, j'ai assisté à une réunion en interne. Il y a eu la Banque Centrale Européenne qui est venue et en fait, j'ai pris des notes et puis j'ai traduit ce qui s'est dit. Comme je suis anglophone, c'est facile pour moi de faire la traduction et puis mes notes ont été envoyées au sein de ces équipes. Donc,
anglais, le fait que tu sois bilingue, ça aide aussi beaucoup ?
Ça aide énormément, oui. Donc, c'était principalement l'identification des risques. Et puis, on avait aussi du travail sur l'externalisation avec les fournisseurs.
Comment tu l'as trouvé, ton stage ?
Je l'ai trouvé en postulant. Oui, je l'ai trouvé en postulant.
Il y a beaucoup de compétition ou pas dans ton milieu ?
C'est extrêmement compétitif, oui.
D'accord. Il faut faire quoi pour se démarquer ? Ce sont les langues, sont peut-être l'apprentissage de certains logiciels. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut apprendre, faut être un pro de Excel ? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe.
Alors, en finance, Et je pense que dans beaucoup de domaines, mais si on reste sur la finance, la première chose, ce serait de parler anglais. L'anglais, c'est indispensable, c'est un outil et c'est plus qu'une volonté, c'est un outil qui fait qu'on arrive à plus facilement accéder à certains postes que d'autres. Deuxièmement, ce sont les certifications. Donc, dans les écoles de commerce, on nous apprend beaucoup à... on nous apprend à se certifier, donc à travers des certifications financières. Celle que j'ai faite, c'est Bloomberg BMC, mais il y en a d'autres comme l'AMF. Il y a aussi le CAMS, ça c'est plutôt une certification récente sur tout ce qui concerne les dispositifs lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Donc c'est plutôt des métiers, on nous demande de nous conformer énormément, donc... les certifications, et je dirais troisièmement, c'est la curiosité des marchés financiers. Donc, même si on n'est pas le premier de la classe en maths, c'est pas grave, mais de montrer une curiosité intellectuelle sur les marchés financiers et aussi d'avoir le jargon financier.
Il faut lire des livres pour ça ? Vous avez des livres ?
Moi, je dirais toujours oui. Je dirais jamais non. Si on me demande de lire des livres, oui, je dirais oui. Mais pas ChatGPT, un vrai livre. Et puis, avoir cette curiosité.
Tu as également fait une alternance chez Natixis.
Yes.
En tant que Product Tax Spécialiste. Qu'est-ce que c'est concrètement ce métier ?
Quand on parle de produits en fiscalité, on parle de fonds d'investissement. Donc j'étais apprentie fiscaliste sur des fonds d'investissement, sur des fonds français et des fonds luxembourgeois. J'ai intégré une équipe de 3 avocats. Donc en fiscalité, on est toujours des petites équipes. Ce sont des métiers très techniques. Et j'étais en charge d'appliquer des directives au groupe Natixis et ses affiliés. Également, j'ai été en charge d'autres tâches super intéressantes, notamment... faire des réclamations de remboursement de retenue à la source par rapport à certains véhicules d'investissement. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que j'ai acquis une rigueur, une technicité et une précision comme je le mentionnais au début. Ce qui m'a beaucoup aidé dans cette expérience, c'est qu'il y avait des personnes très compétentes autour de moi qui m'ont accompagnée tout au long de mon apprentissage.
Mais tu as vraiment eu des expériences dans de grosses boîtes prestigieuses. Donc, comment, là aussi, tu as fait pour trouver cette alternance chez Natixis ? Déjà, c'est compliqué de trouver une alternance.
Alors, je pense que c'est une question de stratégie.
Moi, je sais que dans mon domaine, la communication, c'est compliqué. Je ne sais pas si dans le domaine financier, c'est la même chose aussi. Est-ce que c'est compliqué de trouver une alternance ?
À l'époque, je trouvais que ce n'était pas compliqué. Peut-être que les temps ont changé. En tout cas, je pense que c'est une question de stratégie. La première chose que j'ai fait, c'était de consulter le calendrier parce qu'il y a une certaine période où les entreprises recrutent, il y a une certaine période où les entreprises ne recrutent plus. Donc, c'est vraiment très important de postuler à temps et de postuler en avance. Pour ma part, je m'y étais pris 7 mois à l'avance. J'ai eu le contrat, je l'ai signé 4 mois avant la date de début. Donc, c'était de respecter ces deadlines. La deuxième chose, c'était de montrer un enthousiasme pendant l'entretien. Je sais que ce qui m'a aidée, c'était d'agir comme si j'avais déjà le poste. Et ça, je peux le dire assez ouvertement, j'étais en compétition avec des gens qui avaient déjà fait de la fiscalité, qui étaient déjà en cabinet d'avocat, qui étaient aussi en école d'avocat, alors que pour ma part, j'avais eu un cours de droit des affaires en Erasmus à l'université de Fontis, à Venlo. Donc face à ces personnes-là, j'étais peut-être moins armée, mais ce qui m'a... Je pense qu'il a fait que j'ai pu me démarquer, c'est le fait que je suis bilingue en anglais et français. Ouais. Mais j'ai aussi montré une réelle curiosité pour la matière fiscale. Et puis, je suis venue en entretien avec mon calendrier de cours. J'étais très spécifique sur le nombre d'heures qu'il fallait terminer.
T'étais claire.
Donc, j'étais extrêmement claire dans mes propos et je voulais vraiment tenter ma chance. Et aussi, quelque chose, je pense, qui a fonctionné en ma faveur, c'est d'avoir dit oui quand on m'a demandé « Est-ce que vous voulez vous présenter en entreprise pour l'entretien ?» J'ai dit oui. Et je pense que c'est aussi un test, cette question, parce qu'ils savent un peu que certains jeunes veulent pas se présenter en face à face, ils préfèrent être derrière la caméra.
Oui.
Mais non, en fait, il faut y aller, il faut montrer qu'on a envie parce que c'est nous qui demandons l'alternance, c'est extrêmement compétitif. Donc, il faut dire oui si on nous propose ça.
Tu avais quoi comme rythme d'alternance ?
3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école.
D'accord. Ça se passait bien ?
Ça se passait bien.
T'arrivais un peu à gérer avec les cours ? Et oui. T'avais quoi comme cours d'ailleurs ? Est-ce que c'était des cours qui ressemblaient un peu à ce que tu voyais au travail ? C'était en lien un peu ?
C'était un petit peu en lien, mais vraiment au travail, c'était vraiment très technique. C'était sur le terrain et à l'école, c'était beaucoup de théorie qui m'a beaucoup aidée. Mais c'était vraiment deux choses différentes parce qu'en cours, on ne nous apprenait pas plus que ça sur les fonds d'investissement. Mais j'étais toujours dans l'univers du droit, donc c'était toujours aidant.
Il est temps de faire une pause musicale avec Maria Carré. Bye bye. This is for my people who just lost somebody. Your best friend, your baby, your man or your lady. Put your hand way up high. We will never say bye. No, no, no. Mama's, daddy's, sisters, brothers, friends and cousins. This is for my people who lost their grandmothers. Lift your head to the sky. Cause we will never say.
Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
De retour dans Les Rubis Noirs avec Heather Lopa, juriste en fiscalité et droit des affaires. Alors Heather, tu as fait un VIE à Hong Kong. Incroyable. Déjà, comment tu as décroché ton VIE ? Parce que c'est très, très difficile de décrocher un VIE. Je le sais parce que moi-même, j'ai cherché un VIE il y a quelques années en communication. Cela n'a pas fonctionné. Donc, quelle a été ta stratégie ? Et raconte-nous tout.
Pour le VIE, j'ai postulé sur le site de Business France. Donc, peut-être que ma réponse va te décevoir, mais c'était aussi simple que ça. Toutes les offres sont postulées sur le site de Business France. Donc, Business France, c'est l'entité du gouvernement français qui gère les VIE, le volontariat international en entreprise.
Pourquoi Hong Kong ?
Très bonne question. Hong Kong, c'est l'une des seules villes en Asie où je peux exercer mon poste. Parce qu'à part Singapour, dans les autres villes d'Asie ou les autres pays, il n'y a pas la maîtrise de l'anglais. L'avantage avec Hong Kong, c'est que l'anglais, c'est la deuxième langue nationale. Et en plus de ça, c'est un hub économique et financier. Il y a beaucoup de banques françaises et internationales qui sont présentes. Donc, pour mon profil, c'était un match parfait.
Alors, tu étais Legal Counsel in Derivative Agreements. Sorry for the accent. C'est quoi concrètement un Legal Counsel in Derivative Agreements?
Oui, c'est vrai que mon LinkedIn est configuré en anglais, mais je vais traduire Legal Counsel, c'est un poste de juriste ou alors de conseiller juridique. Donc pour ma part, j'étais juriste à Hong Kong, j'étais à la direction juridique de la BNP. J'étais dans l'équipe de Master Agreements. Donc, je gérais un portfolio de contrats de Master Agreements. Ce sont des contrats standardisés. Donc, ce sont des accords entre la banque et ses contreparties sur des transactions. Ça peut être des transactions de rachat, sur des produits dérivés. Et puis, j'ai exercé ce poste pendant un an.
Comment s'est passée l'intégration alors ? En termes juste pas de culture, de nourriture, de vie sociale.
Il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer de ne pas être trop longue. L'intégration était un petit peu compliquée au début parce que je ne connaissais pas du tout l'Asie. C'était ma première fois. Donc, j'ai eu énormément de chocs culturels au début. Autant beaucoup de chocs culturels positifs que d'autres qui m'ont mis inconfortable. Mais la beauté de l'expérience à l'étranger, l'expérience du VIE, c'est qu'on apprend énormément, c'est une expérience très enrichissante. Je dirais qu'il y avait beaucoup de bonnes choses. Donc, quand j'étais en Asie, j'ai vu que là-bas, il y avait le goût du travail, le goût de la rigueur, et j'ai trouvé que c'était extrêmement impressionnant que le mot travail là-bas, ça soit pris au sens littéral. Donc, quand les gens arrivent au travail,
ils travaillent,
il n'y a pas de pause café avant, il n'y a pas de pause cigarette avant. C'est vraiment, ils arrivent à leur poste et ils travaillent directement. J'ai rencontré énormément de gens, que ce soit de Hong Kong, de la Corée.
Du Japon,
non, mais en l'espace d'un an, j'ai fait 7 pays d'Asie-Pacifique.
Wow.
Ouais.
Quel pays ?
J'ai fait Hong Kong, Macao, Singapour, Vietnam, Corée du Sud. J'ai fait la Chine en dernier à Shenzhen. Et la Chine, j'aimerais vraiment y retourner. Et je pense que c'est un très beau pays, en tout cas.
En tant que femme noire, comment c'était ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés, dont moi, peut-être des a priori sur comment les personnes noires peuvent être perçues en Asie. Comment c'était, en fait, d'être une femme noire à Hong Kong ?
Déjà, je dirais que chaque personne a son expérience unique. Donc, étant américaine, je viens déjà avec un anglais qui est fluent. Donc, je pense que déjà, à ce niveau-là, il y a moins de préjugés, même si je n'aurais pas ma couleur de peau.
Oui. Mais en fait, on te voit d'abord comme une étrangère, en fait.
Voilà. Quand j'étais à Hong Kong et quand j'étais en Asie, on me percevait déjà, enfin, d'abord comme une étrangère à part entière, plutôt qu'une femme noire. Donc, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Je ne me suis jamais sentie mise dans une case. Et je pense que voilà, quand on est américaine, quand on parle anglais très couramment, il y a moins de stigmatisation, j'ai l'impression. Donc je pense que c'était peut-être plus facile que si peut-être je venais du continent africain et que j'avais un accent. Mais j'ai trouvé que de manière générale, il n'y avait pas de préjugés, même avec des connaissances à moi qui sont également de la diaspora africaine. J'ai senti que souvent les rapports étaient agréables avec les Hongkongais.
Incroyable. Ouais. La vie est comment ? Est-ce que ça bouge à Hong Kong ? La vie est chère, moins chère ? La nourriture ?
La nourriture, bon. Au début, c'était compliqué parce que je n'étais pas habituée à ces marchés ouverts avec de la viande. Moi, ça m'a beaucoup choquée. Je ne comprenais pas ce qui se passait, qui servait par exemple des pâtes de poulet. Pour moi, c'était très nouveau.
Ouais.
Mais après, j'ai appris à apprécier la nourriture qu'il y avait en Asie de manière générale. Mais là-bas, c'est vrai que par exemple, bon, ça c'est un détail, mais ils mangent beaucoup de riz et il n'y a pas vraiment de produits laitiers dans leur alimentation.
Okay.
Donc étant de Paris, moi j'ai vraiment l'habitude du fromage, du lait, mais bon, là-bas c'est plus des soupes, du riz, de la viande qui est préparée d'une autre manière. Donc je pense que c'est très beau de voir comment eux ils préparent leur nourriture et d'apprécier d'autres cuisines.
Tes horaires ? Pour le VIE, comment ça se passait ? Tu te levais à 9h et ça se termine à 18h. Comment ? Les horaires de bureau comme ici à Paris ?
Pour moi, en tout cas, oui. En tant que VIE, c'était du 9h, 9h30 jusqu'à 18h.
Et on est payé, bien évidemment.
Oui, bien sûr. Donc, quand on est volontaire, attention, ce n'est pas du bénévolat, pas du tout.
Okay.
On a un contrat, on a une gratification et on a beaucoup d'autres avantages quand on est VIE.
Lesquels ?
Déjà, le billet d'avion aller et retour est pris en charge, mais pour la mission. Donc, si on veut voyager dans notre temps libre, ça, c'est à nos frais. Oui. On a une indemnité mensuelle de logement. Et ça, bah, c'est indéniablement le meilleur avantage dans le VIE parce que le logement, les frais de logement sont couverts.
Ouais. Ah, c'est super, ça.
Ouais. Surtout dans un pays comme Hong Kong où le loyer est quand même relativement cher. Hong Kong, c'est quand même connu pour être le New York de l'Asie. Ouais. Donc, les loyers sont élevés, c'est vrai.
En ce qui concerne le logement pour le VIE, comment ça se passe? Est-ce que c'est Business France qui vous aide à trouver un logement ou c'est vous, par vos recherches personnelles?
Les recherches personnelles. Donc, pour du contexte, je connaissais quelqu'un de Hong Kong. Je l'avais rencontrée en Erasmus. Donc, elle est de Hong Kong. Et avant que j'arrive à Hong Kong, elle m'a envoyé une dizaine de liens sur les sites où je pouvais trouver un logement. Quand j'étais arrivée à Hong Kong, j'étais logée dans un appartement de service. Ça, c'était couvert par la BNP et ça a duré un mois. Donc, un mois, ça te donne le temps de trouver un appartement. Donc, ça, c'était vraiment idéal.
Couvert par la BNP?
Oui.
Pourquoi BNP?
Bah parce qu'on est volontaire et donc quand on arrive, on doit être logé quelque part. Donc, en fait, ça nous donne le temps de faire la recherche d'appartement.
Okay.
La recherche d'appartement était assez intéressante. j'ai fait 3 recherches. Et en fait, comme les agents savent que tu es étrangère, ils vont essayer de te mettre le prix le plus fort. Mais il faut faire très attention. Et ça, je pense que c'est dans n'importe quelle ville. Parce que, j'avais pas envie de me retrouver avec un logement non meublé. Donc en fait c'était compliqué parce que j'essayais de trouver à la fois un appartement qui était à proximité de mon travail mais à la fois où je pouvais utiliser mon indemnité de logement le plus possible.
Voilà. Okay.
Mais aussi c'était anxiogène parce que je devais changer la monnaie en payant. Moi je connaissais pas la monnaie hongkongaise, fallait signer des documents, le dollar hongkongais.
Okay.
Voilà. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci, mais voilà, j'étais un petit peu anxieuse et aussi j'avais un côté très hyper vigilante, une personne qui avait peur de demander de l'aide. Donc même si j'avais des collègues français qui venaient d'arriver en même temps que moi, en fait, j'étais le type de personne qui n'aimait pas demander de l'aide. Je voulais vraiment le trouver par moi-même et c'est ce qui s'est fait. Mais en fait, l'idée de demander de l'aide, de quel est le meilleur quartier, en fait... j'y arrivais pas. Enfin, ça me bloquait mentalement.
Ouais.
Donc, j'ai quand même trouvé l'appartement qui était à 2 stations de métro du travail. Et à la fin, donc ça, c'est un plot twist, j'ai réussi à avoir une résiliation de logement anticipé. Pourquoi ? Parce que mon appartement a eu une inondation à 3 jours de mon VIE. Donc, niveau logistique, c'était très compliqué, mais je m'en suis sortie, heureusement, parce que mon contrat durait 1 an... et 2 mois, parce qu'en fait, ce sont des contrats d'un an renouvelables. Il n'y a pas de contrat d'un an.
D'accord.
Donc, trois jours avant la fin de mon VIE, il y a une inondation de l'eau partout à cause des tuyaux qui étaient bouchés. Donc, c'était très anxiogène. Donc, j'ai déménagé 5 valises. J'ai vendu l'un de mes meubles. J'avais acheté... Donc, j'avais parlé d'un appartement non meublé. Mais au final, moi, j'avais quand même envie d'acheter les meubles parce que ça restait quand même très petit, le canapé qu'il y avait là-dedans. Mon contrat devait se terminer normalement en décembre 2025, mais comme il y a eu l'inondation, ça s'est terminé pile juste avant la fin de mon VIE, donc j'avais pas à payer 2 mois de ma poche.
Voilà. Incroyable.
Voilà, et puis ce qui était aussi assez touchant, c'est que 3 semaines après que j'ai quitté Hong Kong, il y avait 3 bâtiments du côté de Kowloon. La géographie d'Hong Kong, il y a l'île de Hong Kong principale et ensuite à le côté Kowloon, je vivais à Fortress Hill sur l'île de Hong Kong. J'étais à 2 stations de mon travail qui était à Quarry Bay. Et donc sur ce côté Kowloon, il y avait un quartier où il y avait 3 immeubles qui ont pris le feu. Et ça, c'est parce qu'il y avait des matières inflammables et il y a eu 200 morts. Donc ça m'a quand même fait peur en revenant à Paris de me dire, même si c'était pas dans mon quartier, c'était des tours très similaires. Moi, ça m'a fait vraiment peur et paix à leurs âmes. Mais ouais, en fait, c'est un peu anxiogène parce que c'est des grandes tours. Je vivais au 16e étage Et en fait, la superficie est vraiment petite. Ça, c'est la seule chose avec Hong Kong, c'est que tout est plus petit. Je vis dans un 21 mètres carrés. Bon, j'étais célibataire, sans enfant, donc ça allait pour moi. Mais même, c'était quand même petit. Mais au final, on s'y fait. Et puis, c'est le style d'Hong Kong. Donc, c'est petit, mais à la fois, on apprécie quand même parce qu'on vit chez l'autre et puis on apprécie leur façon de vivre. Et pour revenir sur ta question, sinon le reste, le transport est plutôt accessible. On peut trouver de la nourriture pour vraiment pas cher, 2 euros, quelques centimes, voilà, 1 euro, 50 centimes parfois. Donc là-bas, c'est plus une culture de manger des choses facilement qui sont accessibles, mais il n'y a pas la culture de la terrasse là-bas, par exemple, parce que c'est très étroit et c'est la 4e ville la plus dense au monde. Donc, ils essaient au maximum d'optimiser l'espace.
Oui. Tu as rencontré beaucoup de Français ou pas à Hong Kong? Ou des personnes de ton école? Est-ce qu'il y avait des personnes de ton école qui ont fait un VIE aussi à Hong Kong?
De mon école, non. Oui. Mais effectivement, il y a une grande communauté française là-bas. J'étais vraiment très étonnée parce que je pensais qu'il y aurait plus de Britanniques de par le passé colonial. Mais non, en fait, la communauté française, c'est la plus grande communauté d'expatriés à Hong Kong.
Oh, incroyable.
Ouais, c'est incroyable.
Et tu as essayé de les rejoindre, de les contacter
Alors, dans mon intégration, ça, c'est la partie qui a été compliquée parce que... malheureusement, même à l'étranger, j'ai retrouvé cette arrogance à la française. Et voilà, j'ai été à plusieurs after-work du club VE de Hong Kong. J'ai fait beaucoup de rencontres avec mes pairs. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que souvent dans ces environnements, avec la communauté française, il y avait souvent, j'ai trouvé un manque de bienveillance, un manque d'acceptation des uns et des autres. Par exemple, si... une personne ne faisait pas partie de la même école, qui ne la connaissait pas, il n'avait pas cette familiarité. Je trouvais que bon, il n'y avait pas forcément cette ouverture d'esprit pour inclure les gens qui ne venaient pas de la même école. Et dans mon cas, j'ai une sobriété assumée. Donc, j'ai plus de 18 ans, je peux très bien boire un verre de vin si je le souhaite, ce n'est pas ça le sujet. Mais le fait que j'ai une sobriété assumée, ça gêne beaucoup mes pairs. Et pour eux, c'est extrêmement offensant parce qu'ils n'attendent pas qu'une Française de France, qui est née à Paris, qui n'appartient pas à une communauté religieuse spécifique, leur dise « non, je ne vais pas boire avec vous ». Pour eux, c'est extrêmement offensant. Mais aussi de l'autre sens, moi, je me suis sentie très offensée qu'on ne m'accepte pas parce que je n'ai pas envie de boire tout le temps avec eux. Voilà.
Mais donc, tu t'es pas fait d'amis ou de connaissances françaises, quoi.
Plus
des Hongkongais.
J'ai fait beaucoup de rencontres avec des Français parce que c'était aussi mon environnement professionnel. Mais en tout cas, quand on allait aux after work, j'ai pas gardé contact plus que ça. Mais je trouve pas que c'est grave parce que je pense que c'est aligné avec mes objectifs. Mon objectif, Estelle, c'était de découvrir Hong Kong, découvrir l'Asie. Ce n'était pas de rester dans ma communauté. Donc si ça aurait fonctionné différemment, tant mieux. Mais si ça n'a pas fonctionné, tant pis, c'est vraiment pas grave.
Et tu as des contacts de Hong Kong, enfin de gens hongkongais, des locaux ou pas?
Oui, oui.
C'est important, ça.
J'ai fait beaucoup de networking et j'ai aussi rencontré des personnes qui ont étudié en Chine, qui ont travaillé en Chine continentale. Donc, j'ai gardé un très bon contact avec des gens que j'ai rencontrés à Hong Kong, en banque, mais aussi des femmes de la diaspora africaine qui, elles, parlent le chinois couramment, qui, elles, ont étudié et travaillé en Chine et aussi qui travaillent à Hong Kong depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai quand même un réseau plus élargi maintenant.
Incroyable. Alors, je fais une petite pause. Cherche mes fiches. Je pourrais couper après. Je t'ai demandé sur les missions. Non ?
Les missions. Oui, on en a parlé.
Ok. Les conseils que tu pourrais donner, non ? Pour postuler un VIE. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a... Juste avant qu'on enregistre, enfin, continuer la discussion, est-ce que tu sais pourquoi ils t'ont accepté parmi tant d'autres profils ?
Oui, je sais, je l'ai demandé.
C'est vrai, ils t'ont dit quoi ?
On enregistre ou...
Non, je sais pas.
Ok.
Non, mais juste avant qu'on reprenne, je te pose la question. Ils t'ont dit c'était pourquoi ?
Ils m'ont dit que c'était... Parce que j'ai demandé à ma supérieure hiérarchique, elle m'a dit que c'était mon enthousiasme, ma curiosité, mon attitude.
Ok, donc je vais te poser cette question.
Ok.
On reprend. Alors, Heather, j'aimerais savoir quels ont été les éléments déterminants qui ont permis à ce que tu puisses être acceptée dans ce VIE. Pourquoi tu as été acceptée parmi tant d'autres ?
Le VIE, comme on disait, c'est un dispositif extrêmement compétitif, surtout dans le droit. J'ai demandé à ma supérieure hiérarchique pourquoi est-ce qu'on m'a prise plutôt que quelqu'un d'autre. Et elle m'a dit en trois mots, c'est ton enthousiasme, ta curiosité et ton attitude. Et j'étais en compétition avec 200 autres personnes qui étaient tout aussi compétentes, qui avaient aussi leur expérience propre à elles. Mais j'ai été prise pour le poste.
Et le fait que tu sois bilingue, encore une fois ?
Être bilingue, oui, c'est un élément clé, mais ça ne fait pas tout. Parce que parfois, on choisit des personnes qui ne sont pas bilingues, mais qui ont d'autres compétences. Mais effectivement, pour s'expatrier à Hong Kong, il faut parler l'anglais, ça c'est sûr et certain.
Dans ton domaine, c'est quel logiciel, quelles compétences faut-il avoir ? Est-ce qu'il faut savoir maîtriser, je ne sais pas moi, par exemple, Excel ? Je ne connais pas vos logiciels. Moi, je ne connais que les logiciels de la communication, etc. Oui. Suite Adobe, Microsoft, Canva, oui. etc. Mais vous avez quoi comme logiciel ? Est-ce qu'à un moment, on vous dit, il faut que tu maîtrises tel logiciel, telle application ? Comment ça se passe ?
Je pense que ça dépend du grade à laquelle tu intègres la banque. Dans mon cas, je n'avais pas besoin de savoir maîtriser un logiciel en particulier. Mais si, par exemple, je postulais au même poste que j'ai fait en VIE, sauf que ce n'est pas un poste en VIE, je pense qu'on me demanderait certainement beaucoup d'expérience de négociation de contrat. Voilà, mais pas forcément un logiciel en particulier.
Beaucoup d'expérience en négociation de contrats ?
Oui, parce que les contrats que je traitais, en fait, ce sont des contrats qui sont négociés. Donc, tu as le contrat standardisé. Et après, mes collègues permanents, eux, ils étaient en charge de négocier le même contrat avec les spécificités, avec cette contrepartie.
Ok. Ouais. Tu es en train d'écrire un livre. As-tu déjà le nom de ce livre en tête ?
Oui, le livre s'appelle « Je m'éloigne ».
Pourquoi « Je m'éloigne » ?
Pourquoi « Je m'éloigne » ? Parce que je raconte l'histoire de l'éloignement, donc l'éloignement avec ma ville de Paris, avec Hong Kong, et aussi l'éloignement que j'ai vécu avec mon père. Donc j'aimerais que cette histoire parle à tout le monde, puisque l'éloignement, finalement, c'est une expérience universelle. Il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger pour diverses raisons, mais dans cet ouvrage, je raconte que l'éloignement, ce n'est pas tout beau, ce n'est pas tout rose. Donc j'arrive à Hong Kong, je suis super excitée, c'était la phase de lune de miel. J'ai adoré Hong Kong au début, je ne connaissais pas, c'était nouveau. Mais ensuite, il y avait une chute. En janvier 2025, j'ai démarré une thérapie psychologique parce qu'il y a plein de choses qui se sont effondrées. Il y a deux amitiés qui ont pris fin dans ma vie. J'étais perdue un petit peu au niveau des relations amoureuses parce que c'était pas... Voilà, j'étais dans une situation qui ne me correspondait pas, donc j'avais besoin de savoir qu'est-ce que je voulais si jamais je souhaite être avec un homme. Et puis aussi, beaucoup d'anxiété par rapport à mon futur professionnel, malgré que j'ai obtenu ce VIE très prestigieux. Mais je pense que je me mettais énormément la pression. Je pensais que j'avais besoin de savoir exactement ce que j'allais faire après le VIE. Je commençais un petit peu à me surestimer, qu'il faut que ma carrière elle continue à Hong Kong. Mais pourquoi est-ce qu'il faut ? Il n'y a pas de « il faut » finalement. J'ai vraiment appris que je devais apprécier ce que j'ai obtenu, ce que j'ai réussi à faire, et pas que je réponde aux critères d'autres personnes qui pensent savoir mieux que moi. Donc l'éloignement, c'est aussi un éloignement avec soi, et à la fin, on comprend que, je suis le personnage principal dans ce livre, mais on comprend qu'elle retrouve la raison, et j'ai envie que ce livre il parle à tout le monde. C'est une expérience universelle, et je tiens à préciser que je ne veux pas que cette histoire soit... j'ai fait un VIE, tout s'est super bien passé, j'étais dans une situation privilégiée. Non, ça a été parfois compliqué d'être loin de chez moi. Ça a été aussi très anxiogène parfois. Au début, surtout, je pleurais beaucoup.
C'est vrai ?
Mais parce que j'étais à des milliers de kilomètres de chez moi, 14 heures d'avion. Et à un moment donné, Estelle, j'ai vraiment questionner qu'est-ce que je fais là, est-ce que c'était la bonne idée de faire un VIE, parce que j'étais vraiment très anxieuse. Donc j'ai démarré la thérapie psychologique, mais en l'espace d'un an, j'ai fait 7 pays, j'ai fait des rencontres incroyables, et puis j'ai changé de style d'attachement aussi. Je parlais un peu de relations amoureuses, je suis passée d'un style d'attachement anxieux à sécuritaire, donc j'ai voulu aussi me retrouver et puis gagner une confiance en moi et apprécier une autre culture et apprécier l'expérience du VIE et de comprendre que c'est pas grave de ne pas avoir toutes les réponses. C'est pas grave si juste après le VIE tu n'es pas embauchée, parce qu'il y a les réalités du marché du travail. Et j'ai compris que dans ma situation, pour devenir avocate, je dois, même si j'ai un profil qui est considéré comme compétitif, ce qui est vrai, mais je dois quand même davantage persévérer dans le domaine académique pour être avocate.
Comment se passe le processus d'écriture ? Est-ce que tu rédiges un peu le matin, un peu le soir, par-ci, par-là ? Comment ça se passe ?
J'apprécie beaucoup ta question. C'est un processus qui doit être consistant. Donc, je travaille tous les jours sans excuse. Pour du contexte, j'ai commencé une première version en novembre 2024 et pendant un an, j'ai écrit 100 pages et je suis accompagnée dans mon processus d'écriture. Mais très sincèrement, je n'aimais pas la première version parce que ce n'était pas aligné avec les objectifs du livre. Donc, j'ai recommencé le processus d'écriture juste là en février avec une autre stratégie. Donc, j'ai commencé par une chronologie de ce qui s'est passé de août 2024 à la fin de mon VIE. J'ai commencé à utiliser un support de comment faire un storytelling qui marque, qui soit impactant, qui soit pas ennuyeux, parce que le but, c'est que les gens lisent le livre du début jusqu'à la fin, au moins qu'ils achètent le livre, que ça leur parle. Donc j'ai commencé avec une autre stratégie.
Ok, incroyable. Et tu fais des nuits blanches ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis plutôt matinale, donc non, pas de nuit blanche, mais ouais, c'est plus un travail de passion, donc je le vois pas comme une charge, mais ça reste un travail de longue haleine. Et le plus difficile, c'est d'écrire. C'est ça le plus difficile. Ouais. Donc quand j'ai fait ma deuxième version, Estelle, j'ai vraiment voulu avoir une structure, de savoir où j'allais, parce qu'à un moment donné, j'écrivais, mais je perdais le fil, je savais plus quoi raconter.
Ce sera en français et en anglais ?
Ce sera en français. En français, c'est je m'éloigne. Je m'éloigne.
Quand le livre sera-t-il disponible selon toi ? Tu aimerais qu'il soit disponible quand ? Toi, ton idéal, ce serait quand ?
Mon idéal, ce serait avant juillet 2026. Je n'ai pas une date spécifique en tête, mais dès que le livre sera prêt, tout Internet sera au courant.
Ta famille t'a poussé à écrire ce livre ou seulement toi ? Ou des amis t'ont dit « Ah, tu devrais vraiment écrire un livre et tout sur ton expérience ?»
J'ai une amie de la famille qui m'a encouragée à écrire un livre puisque elle-même est autrice. Donc, elle a déjà écrit un livre. Et puis, je me suis dit que ce serait une idée concrète. Parce que c'est vrai que je suis bibliophile. J'aime beaucoup lire des livres papier. J'ai une préférence pour ça. Je sais qu'il y a des Kindle, mais je préfère tourner les pages. Je suis assez old school pour ça. Et j'aime beaucoup écrire. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des facilités dans l'orthographe, la dissertation. Donc, comme c'est un avantage pour moi, je me suis dit c'est totalement logique et c'est un projet qui peut se concrétiser.
Où est-ce qu'on peut te suivre, Heather ?
On peut me suivre sur LinkedIn, Heather Lupa, et c'est là où on peut me suivre principalement.
On arrive au terme de cet échange. Quel conseil tu pourrais donner aux étudiantes afrodescendantes qui souhaiteraient se lancer dans le milieu du droit des affaires, comme toi, ou faire un VIE ? Quel conseil ?
En droit des affaires et afrodescendantes ?
Oui.
Je dirais que si elles veulent se lancer dans le droit des affaires, y a des codes à adopter parce que les milieux de la fiscalité, du droit, ce sont des milieux très rigides. On demande beaucoup de précision, de discipline. Donc, des codes en entreprise à respecter, ça part de la tenue vestimentaire. C'est tout bête, tout simple, mais c'est vrai.
Les coiffures aussi ? non ?
Les coiffures, bah, ça c'est un vrai c'est un vrai sujet, les cheveux.
Ouais.
Mais je dirais d'avoir une coiffure propre, voilà, une coiffure propre, et ça peut être très bien les cheveux naturels comme une perruque. En tout cas, les perruques, c'est pas réprimandé en entreprise, mais que ce soit afro ou autre, au moins une coiffure propre. Je dirais voilà, la curiosité intellectuelle pour les chiffres, pour les marchés financiers. Et si c'est en droit, d'avoir un projet professionnel compréhensif et clair, parce que dans la finalité, c'est soit on est juriste, soit on est avocate. Mais il faut être clair sur son projet professionnel.
Mais toi, tu m'as dit que tu voulais être avocate. Tu l'as
c'est
dit.
Ça.
Mais il faut passer le barreau, du coup.
C'est ça, il faut passer le barreau.
Et tu vas le passer.
Oui, il faut le passer. Il faut le passer, mais pour ça, il faut valider un master qui est reconnu par les écoles de droit. Donc, malgré que j'ai un master, j'ai un MSc, comme c'est d'une école de commerce privée, ça détient du ministère du travail, pas de l'éducation. Donc, si je veux entrer en école d'avocat, effectivement, il faut que je fasse un autre master.
Ah ouais. Et
en France, en tout cas.
Et tu te sens prête à refaire ?
Je me sens prête à refaire, oui.
T'es déterminée, c'est bien.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu t'es sentie légitime de te lancer dans ce domaine-là ? Tu n'as jamais eu le syndrome de l'imposteur ?
Pas du tout.
Ok. Des barrières mentales, des obstacles ? Moi, j'avais entendu une fille à une conférence qui disait qu'il y avait une proposition d'offre. Et il y avait quelqu'un qui n'était pas noir, du coup, qui lui avait dit « Oh, mais toi, c'est pas la peine de postuler parce que ça ne marchera pas. » Elle n'a pas écouté. Elle a postulé, elle a eu ce qu'elle voulait. Donc, toi, est-ce que tu as déjà été confrontée à ce type de configuration-là où on t'a dit « Non, mais ça ne va pas marcher » ou « Non, c'est pas la peine, c'est trop dur pour toi, soit parce que tu es une femme, soit parce que tu es une femme noire. »
J'ai jamais été confrontée à ce type de discours, et je dirais que pour toute autre jeune femme afrodescendante qui souhaite se lancer, qu'elle ne se mette pas de barrière, parce que si on a le parcours académique et qu'on a la niaque et qu'on a la personnalité, finalement les seules barrières, bah, c'est celles que peut-être d'autres personnes peuvent nous imposer ou nous-mêmes, mais je pense qu'il n'y a pas de barrière à se mettre, et si peut-être il y a une petite voix négative, il faut s'en débarrasser, il faut revenir à la raison et il faut être lucide. Mais sincèrement, non, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est une construction sociale, et que si la personne l'a, en tout cas, il faut vraiment se battre et se rappeler qu'on est légitime, surtout si on a le parcours pour prouver qu'on est légitime.
Merci à toi, Heather. Merci, merci beaucoup. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et d'avoir pris le temps d'écouter cette discussion. J'espère que ces échanges vous auront apporté des éléments de réflexion et peut-être même de nouvelles perspectives.
Merci, Estelle.